Raphaël Léquipe.
Troisième course gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour une heure de petite balle jaune sur l'antenne d'RTL L'Équipe, votre radio du sport et de l'info, carrément tennis avec tous nos spécialistes. Il va être longuement question de Coupe Davis ce matin. Certes, ce n'est que le week-end prochain, mais ce premier tour entre l'Autriche et la France à Vienne sur terre battue fait déjà couler beaucoup d'encre. On connaît désormais la sélection de Guy Forget qui, pour une fois, n'a pas eu trop à se creuser les méninges parce qu'en raison des forfaits de Gaël Monfils qu'on attendait, mais également de Joe Wilfried Tsonga, victime d'une hernie inguinale, eh bien Guy Forget n'a pas beaucoup de monde à sa disposition. Ce sera Richard Gasquet et Gilles Simon pour les simples et sans doute Mika Lodra et Julien Beneteau pour le double. Alors quelle chance pour l'équipe de France amoindrie à Vienne face aux Autrichiens de Jürgen Melzer. Il y a quand même un coup à jouer parce qu'hormis Melzer, l'équipe d'Autriche n'est pas non plus extrêmement forte, en tout cas sur le papier. On en parle longuement ce matin dans la première partie de l'émission. Vous entendrez Guy Forget sur tous les thèmes de ce premier tour de Coupe Davis, y compris Joe Wilfried Tsonga qui nous expliquera pourquoi il est forfait en raison de cette hernie. On reviendra également dans la deuxième partie sur les tournois de la semaine et notamment du côté de Dubaï avec un quart de finale qui nous plaît bien, tiens, justement, entre Richard Gasquet et Gilles Simon. Ce sera ce soir cette rencontre. Roger Federer est toujours en course, tout comme Novak Djokovic après son titre à l'Open d'Australie. On ne l'avait plus vu. Le Serbe, il est en quart de finale. On parlera également du succès, une nouvelle fois, de Robin Söderling à Marseille. Décidément, l'homme en forme de ce début de saison, le doublé Rotterdam-Marseille pour lui en indoor. Et le contrat de son coach, mine de rien, Claudio Pistolesi. L'Italien va-t-il être renouvelé au-delà des 3 mois de la période d'essai? Ça semble bien parti. Et puis chez les filles, Caroline Wozniacki a repris le leadership à Kim Clijsters en gagnant, et ma foi, de fort belle manière la semaine dernière à Dubaï. Le chassé croisé va peut-être continuer pendant quelques semaines. Wozniacki qui essaye d'enchaîner par Doha cette semaine. On reviendra également sur la belle finale de Mathilde Johansson du côté de Bogota. C'était le week-end dernier. Elle n'a perdu seulement que contre Dominguez Lino.
Like RTL L'Équipe. Carrément tennis.
Trois filles, deux garçons dans ce studio. Il en manque
combien
un.
Combien de possibilités?
Beaucoup, beaucoup, mais nous restons sobres. Et encore, il n'y a pas Benoît Mélin, heureusement. Benoît Mélin qui est au commentaire. Si vous voulez suivre le tournoi de Dubaï, écoutez notre cher ami Benoît Mélin sur Orange tout au long de la semaine. Elle a les hormones en folie. C'est normal, elle est enceinte. Bonjour Émilie Loi.
Ça c'est fait.
Bonjour.
Ça c'est
maintenant on peut le dire. Maintenant on peut le dire.
Vous lui avez pas demandé avant, c'est le
si, si, si. Tout va bien.
Franchement.
Maintenant vous pouvez plus le cacher. Hein. Génial.
Bah, si elle pouvait dire qu'elle mangeait un peu trop ces derniers
temps. Regardez comme ça s'arrondit bien, c'est tout mignon.
C'est mignon.
On a instauré un.
Qu'est-ce que tu bouffes,
un test.
Fait,
hein. Vous savez, on a instauré un test près de mon bureau.
Ah
entre okay, entre, bah, entre l'armoire et le frigo.
Là c'était limite.
On va voir quand est-ce qu'elle passe plus. Là aujourd'hui
à mon
ça
avis,
passait
la
encore.
Prochaine, c'est mort.
Ça va Émilie?
Ça va super.
La forme?
Ouais, nickel.
Myrtille Rambion, elle prépare son voyage à Miami parce que chaque année elle part à Miami pour la tournée américaine.
Alors j'ai l'impression aujourd'hui ça y est, il dévoile notre vie hein.
Ouais, ouais ça y est.
Je vais pas dévoiler votre vie que de dire que vous allez à Miami.
Aussi
vous y allez pour le travail.
Bon, aussi. Ouais.
Bon,
bonjour.
Déjà en polo d'ailleurs.
Ah bah il fait chaud chez vous ici là.
Dans le studio hein, parce
ouais,
que dehors à Paris, c'est
d'accord.
Pas encore ça. Hein. Lui, il a son gros pull en laine, vous voyez, le nordiste, il a l'habitude. Ah mon Juju, salut Juju Marley.
Ouais,
très joli, c'est de la maille italienne.
Ouais, très joli le pull.
C'est du cachemire.
Oh,
oh,
joli.
Oh, un gilet.
Oh là là.
Ah, c'est exact, il y a des trous pour les manches.
Oh, un gilet pour les manches. Perdre les tissus d'ordure hein, pour ceux qui ne l'ont pas depuis des années.
Oh, je sens que ça va dépoter.
Carole Bouchard est morte de rire. Salut ma Carole.
Bonjour à tous.
Tout va bien?
Tout va très bien.
Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous comme tous les jeudis pendant une heure pour évoquer l'actualité tennis. On va pas non plus se prendre au sérieux, faut pas exagérer.
Ça serait nouveau.
Nous analysons sérieusement les choses du tennis, mais on essaie de le faire dans la bonne humeur. J'ai reçu l'autorisation exceptionnelle, bien que ce ne soit que dans 10 jours, de parler de la Coupe Davis.
Ah oui, parce que
Julien Barlet m'a dit, c'est bon, ça se rapproche, on peut en parler.
Oui, parce que vous avez dit le week-end prochain, je vous arrête. Ce n'est pas le week-end prochain.
Oui, dans 10 jours.
Ah bah oui.
Et vous avez compris. Enfin, non.
Non. Ah non, je suis d'accord.
C'est
avec
ce week-end, merci, week-end. Merci. Oui.
Non,
mais t'as raison.
Bon.
Si je m'exprimais bien en français, ça se saurait depuis longtemps. Hein.
Ouais,
en tout cas, c'est dans 10 jours. Voilà, le week-end du début mars. Voilà, 5-6 mars. 4-5-6 mars, cette rencontre de Coupe Davis à Vienne dans un hangar. On va y revenir aussi parce que Guy Forget, ça le fait rire, cette notion de hangar.
Ça va peut-être pas rire longtemps.
L'info de la semaine, c'est la composition bien sûr de Guy Forget, mon cher Julien Varlet. Gasquet, Simon en simple, Lodra, Beneteau en double. Le forfait de Monfils était attendu, Mais juste avant l'annonce de Guy Forget, on a appris celui de Joe Wilfried Tsonga, victime d'une hernie inguinale. On va y revenir. Pourquoi ? Parce que ça a fait un petit peu de débat au sein des membres de l'équipe de France. C'est un nouveau coup dur, on va dire, après celui de mon fils. C'est quand même les deux meilleurs joueurs français sur le papier qui sont forfaits pour ce premier tour.
Après, la composition de Guy est complètement logique. Ce sont actuellement les meilleurs joueurs français dont il a fait appel. Après, moi, le petit truc qui m'embête, à voir si Joe Tsonga va suivre ses potes comme il a pu le faire la saison passée sur la demi et la finale. Parce que voilà, il a fait une annonce.
Autour de la table, tout le monde a l'air sceptique pour sa présence à Vienne.
Je vais développer. C'est que c'est comme au foot, quand on joue le haut du tableau, c'est toujours facile d'être dans les tribunes et d'aller voir ses potes. Quand on est dans le bas du tableau, c'est beaucoup plus dur. Maintenant, est-ce que vraiment et réellement l'esprit d'équipe est là ? Est-ce qu'il va faire le déplacement à Vienne pour supporter ses copains ? Ou alors se dire, ouais, c'est un match de premier tour. Logiquement, il devrait s'en sortir. Mais là, je trouve que là, pour le coup, l'esprit d'équipe n'y sera pas. Donc, je veux pas non plus m'avancer. Mais logiquement, même s'il joue pas, il doit être présent vendredi.
Alors, avant d'entrer dans la mini polémique qu'a créé ce forfait de Joe Wilfried Tsonga, vous entendrez dans quelques minutes Mickaël Laudra notamment. Joe Wilfried Tsonga, on le sait, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs, des blessures à répétition et qu'il était vraiment tout près de coincer, notamment à cause d'une compensation sur son genou. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On a bien vu à l'Open d'Australie Midi-Lois qu'il y avait des moments où il jouait pas, et donc c'est pas si étonnant que ça de le savoir blessé. Après, on verra pour le reste. Après.
Non, c'est pas si étonnant de ça qu'il soit blessé. Maintenant, il y a un gros problème de communication. Il nous sort l'hernie de derrière les fagots. Faut arrêter, quoi. Il fait finale à Rotterdam. Il fait finale en double avec.
Et JT, il courait très bien.
Avec Bennett. C'est logique. Je veux dire, c'est logique qu'il joue pas à Vienne. C'est sur terre battue. Il peut hypothéquer la suite de sa saison, notamment Indian Wells Miami. Je sais pas s'il est inscrit. Mais faut arrêter. S'il va à Vienne, il est encore plus faux cul qu'on peut l'imaginer. C'est qu'il veut pas jouer en Coupe Davis. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. C'est sur terre battue. Quelque part, je le comprends. Je le comprends. Mais dans sa com, il doit dire la vérité. Il nous sort une vieille hernie là de qui. Non mais. Et après, il dit ouais, je vais soutenir les copains. Attends, c'est facile d'aller dans les tribunes et soutenir les copains. Il va pas non plus s'aligner en double parce qu'il va falloir qu'il fasse la semaine d'entraînement. Il va se retrouver sur terre battue, faire des glissades, etc. C'est dangereux pour sa santé. Mais l'hernie, non.
Alors, parole à la défense tout de même.
À Melbourne, on lui a demandé est-ce que t'es blessé, Joe. Il a envoyé promener tout le monde en disant mais arrêtez de me faire des blessures, je vais très bien, j'ai rien. Donc, après, un mois et demi après, tu peux pas venir dire j'ai mal depuis Melbourne, c'est terrible. Honnêtement, la finale à Rotterdam, il court bien. La finale du double à Marseille, il était pas mal non plus. Qu'il fasse comme Gilles Simon. Fasse comme Gilles Simon qui a dit dès le début moi, aller sur terre battue, ça m'ennuie.
Voilà.
Mais qu'il
le dise. Il va devoir y aller quand même d'ailleurs. Gilles Simon, c'est un autre problème. Écoutons quand même parole à la défense avant de, c'est vrai, un petit peu peut-être s'acharner, pas méchamment, mais sur Joe Wilfried Tsonga cette semaine. Écoutez d'abord sa justification quant à son absence et cette fameuse blessure, cette hernie.
Pour moi, en tout cas, c'est pas une grosse surprise. Depuis le début de la saison, j'ai un problème de hernie inguinale. Bon, depuis le début de la saison, ça m'empêche pas de rentrer sur le court. Mais par contre, au bout d'un certain temps ou à une certaine intensité dans le match, ça commence à me faire mal. Donc, en fait, quand ça arrive, je peux plus faire grand chose, comme on a pu voir un peu en Australie. Tous mes matchs étaient un peu bizarres et je courais pas trop parce que j'avais ça. Là, j'ai joué en salle. C'est vrai que c'est des conditions complètement différentes. Je peux finir le point beaucoup plus vite. Donc, c'est beaucoup moins difficile. Et surtout, j'engage que moi si jamais j'ai mal et au bout d'un moment, je dois arrêter. Et malheureusement, en Coupe Davis, je peux tout simplement pas me le permettre parce que si jamais au bout de 2-7, j'ai mal et que je peux plus courir, j'engage toute l'équipe et les couleurs de mon pays. Donc, je peux pas vraiment prendre ce risque. Et donc, du coup, je vais pas participer à la Coupe Davis. Puisque ça a la hanche, on sait que sur terre battue, il y a beaucoup d'appuis ouverts, beaucoup de glissades, il faut être très solide. Donc je sais que déjà dehors sur dur, c'est pire qu'à l'intérieur sur dur. Donc je me dis que sur terre battue, ça va être encore une autre histoire. Et je veux vraiment pas prendre de risque. Je crois que j'ai assez payé comme ça. Et j'ai fait des erreurs l'année dernière en venant beaucoup trop vite, en voulant faire beaucoup trop de choses. Donc là, je vais faire comme les médecins m'ont prescrit, c'est-à-dire de jouer un petit peu, de prendre du repos et d'essayer de revenir vraiment à mon top niveau progressivement. Et concrètement, normalement, on devrait me revoir dès Indian Wells. Donc là, je vais prendre pas mal de repos, je vais continuer à travailler, je vais continuer à renforcer à soigner ce petit problème et puis je vais rejouer Indian Wells. Alors en fait, c'est assez compliqué parce que je suis allé voir des chirurgiens, il y aurait la possibilité que je me fasse opérer, mais ça me ferait encore perdre du temps, 2-3 mois, et il y a la possibilité aussi que cette douleur disparaisse, parce que en fait, j'ai beaucoup compensé avec mon genou pour revenir au top. Donc c'est assez difficile, donc voilà, je vais essayer de jouer les tournois aux États-Unis, et puis à l'issue de cette tournée, je saurai vraiment si j'ai besoin d'intervenir sur d'une intervention chirurgicale ou si ça peut passer comme ça et que je peux continuer à jouer et que la douleur disparaisse.
Voilà, Joe Wilfried Tsonga, donc forfait pour cette Autriche-France, premier tour de Coupe Davis. Alors moi, ce que je retiens comme argument valable, même si comme tout le monde, je suis un petit peu sceptique sur ce forfait, c'est, voilà, j'ai un peu mal depuis quelques semaines, jouer sur terre battue avec les glissades dans des matchs de Coupe Davis qui peuvent durer 4 heures et où tu joues pas pour ta pomme mais pour celle de ton équipe, ça se justifie presque, j'ai envie de dire, mais à ce moment-là, il fallait presque ne dire que ça.
Mais je pense qu'il n'y a personne, ni autour de cette table, ni dans le tennis français, qui n'entendrait pas que Joe Wilfried Tsonga fasse l'impasse sur la terre battue. On en a déjà parlé, on connaît ses problèmes depuis toujours, on sait qu'il a un physique fragile, on sait que la terre, contrairement à ce qu'il nous dit depuis quelques saisons, c'est pas son truc, et on peut comprendre qu'il risquerait de se blesser, de se faire un genou, enfin n'importe quoi sur les glissades et tout, que lui, bah, ses surfaces, c'est plutôt le dur, et l'indoor après pour la fin de saison. Mais dans ce cas-là, pourquoi attendre de communiquer dans la nuit du dimanche au lundi, juste avant Guy Forget donne sa liste, en gros, comme ça sur son site internet.
Bon, après, Guy Forget devait le savoir, lui.
Mais j'espère, mais je veux dire, il faut le dire avant, après. J'espère effectivement que c'est un peu de l'enfumage, si vous me permettez l'expression, et qu'il n'y a rien de plus grave. Parce que si c'est réellement des blessures comme ça, si un coup c'est le genou, un coup la hanche, un coup l'Iolène ou la pubalgie,
je pense qu'il est vraiment
c'est
blessé,
très très grave. Oui. Mais je pense qu'il a des choses. Mais dans ce cas-là, pourquoi le dire maintenant ?
Exactement. Julien ?
Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Myrtille, mais on va voir si l'équipe de France ne se qualifie pas pour jouer le deuxième tour en Espagne. En Espagne, c'est un match qui brille, c'est le prestige. Je ne suis pas sûr qu'ils disent « Oh non, je suis blessé, je ne veux pas jouer sur terre », tu vois. C'est, moi, je pense que c'est plus, ça l'emmerde d'aller jouer en Autriche, en hiver, dans un hangar où, voilà, où logiquement la France doit passer. Si c'était, voilà, ça va se passer comme ça. Logiquement, on va gagner, on va jouer l'Espagne en Espagne, et ça m'étonnerait qu'ils disent, ah non, je suis blessé.
Mais est-ce qu'à un moment,
terre,
ce serait pas.
Ah, mais t'as complètement raison.
Mais pourquoi ne pas être grand entre adultes et dire voilà, c'est comme ça. Rafael Nadal à un moment a dit ben voilà, je ne jouerai pas la Coupe Davis parce que je me concentre moi sur mon simple et surtout sur mes blessures, mon genou, voilà, ça pourrait hypothéquer. Tout le monde a pas forcément compris, on lui est un peu tombé dessus, sauf qu'on a vu après que ça l'empêchait pas de revenir. Voilà, et de revenir après et d'aller soutenir ses camarades.
Enfin,
je pense qu'on est tout le monde est entre adultes et voilà, moi enfin, ce que je trouve, c'est que là, en fait, oui, c'est en train de monter des petites choses dans cette équipe de France et les choses pourraient péter très
alors
clairement
là,
à Vienne. Hein.
Je vais vous tenir un discours que d'ordinaire, je ne supporte pas, donc je me fais l'avocat du diable. Est-ce que Joe Wilfried Tsonga n'est pas en ce moment, on va dire, dans le move au niveau des agents, des sponsors, de tout ça, et il est en train aussi de profiter tant bien que mal et autant qu'il peut du système, et qu'un mec qui dit ouais non moi le premier tour de la Coupe Davis machin c'est pas assez paillé,
faut pas dire comme ça,
voilà. Mais tu le dis pas comme ça, mais c'est sur terre battue en Autriche, il est où le problème qui décline l'invitation, la sélection
bankable, voilà, cherchez le mot, il est bankable en ce moment,
tout le monde va le comprendre.
Cela dit, moi je trouve que voilà, le positionnement de Joe est particulier, autant celui de Gilles, je l'apprécie, parce que autant il a dit si c'est pour venir en remplaçant, je ne veux pas venir, mais autant si Guy fait appel à moi et je joue, je viendrai tout simplement. Donc voilà, je trouve ça complètement honnête
c'est
et clair.
Honnête.
Alors tout le monde entendrait, vous l'avez dit.
Ça peut être critiquable en plus, dit, mais c'est très honnête, j'adore. Voilà.
Tout le monde entendrait, vous l'avez dit, ce forfait de Joe Wilfried Tsonga pour tout un tas de raisons. Mais néanmoins, certains membres de l'équipe de France de Coupe Davis s'étonnent quand même et sans mâcher leurs mots. Et ça, on aime bien dans ce monde aseptisé aujourd'hui que certains ne mâchent pas leurs mots. À l'image de Mickaël Laudra, qui malgré sa défaite dans le simple décisif à Belgrade, n'a pas perdu son franc-parler. Quand il a appris le forfait de Joe Wilfried Tsonga pour ce premier tour en Autriche, écoutez sa réaction.
C'est vrai que voilà, on peut s'interroger sur la nature du forfait. Je crois que j'ai entendu une hernie inguinale. Maintenant, je l'ai vu jouer en simple et en double à Rotterdam et à Marseille. Pour l'avoir joué aussi à Rotterdam, j'avais l'impression que ça allait. Mais non, je ne m'attendais pas du tout à qu'il se retire. Je suis assez étonné. Mais bon, voilà, si à un moment donné il souffre et que les médecins lui ont dit de s'arrêter, seulement lui peut prendre cette décision-là. Mais les dernières fois où on a parlé, il y semblait très motivé pour la Coupe.
Mickaël Laudra, Poli, mais appuyé quand même la remarque.
Poli, oui,
il a raison.
ça envoie du lourd.
Ouais, on va pas se plaindre d'enfin entendre ce qu'il pense vraiment quand même. On peut au moins compter sur le drap pour ça.
Bon, le drap qui a toujours été
moi,
un pilier.
Je comprends que Gilles il décline la sélection. Hein. On l'a quand même pris, je pense, pour un con pour la finale. Et là, ça va être le sauveur.
Et là, on
franchement,
fond,
j'ai envie de dire, s'il fait un bras d'honneur à Guy Forget, bravo. Quoi.
Ouais, mais là, du coup, il se met pour le coup aussi une partie du public à dos. Il n'y a aucune raison qu'il fasse un bras d'honneur à Guy Forget. Il n'a pas gagné un match encore.
Je pense que je connais pas les tenants et les aboutissants, mais il faut se mettre à sa place. Ouais.
Il en a quand même pris plein
quand
la tronche.
On a besoin
après.
De
justement,
lui.
c'est le plus beau des moments pour.
Imagine sur
la chaise. Que c'est l'envoyer peut-être un petit peu au casse-pied
ouais,
parce qu'en plus la terre c'est pas sa surface.
Ouais, mais alors c'est-à-dire que tous les rats abandonnent le navire là.
Il l'envoie pas dans les vestiaires et tout pour pas qu'il saoule Michael Laudre avant sa finale et tout, etc. Et puis là il y a personne et tout. Allez, viens, coco.
Attends, si Richard Gasquet dit la même chose en disant moi de toute façon depuis 2 ans je suis plus personne.
Alors que depuis le départ c'est l'année de trop de Guy Forget.
Si tout le monde déclare d'entrée, il y a plus personne pour jouer.
À un moment t'as un problème effectivement. De relation entre le capitaine et les joueurs. Ouais, Gilles Simon, ça doit être un pilier de cette équipe. Il manque de bol. Entre Guy et lui, c'est plus la haine que l'amour.
Il va le faire parce qu'il est professionnel.
Et c'est un compétiteur.
T'imagines sur
et
la chaise.
C'est un compétiteur. Mais
ça va être sympa l'ambiance.
Il va le faire une fois, je pense pas qu'il
alors,
le fasse.
C'est quand même
fois.
Aussi la principale information, certes due au forfait de mon fils et de son gars, mais cette
Richard.
Équipe de France de coup de vis, c'est le retour de Richard Gasquet. Titulaire en simple en Coupe Davis.
Bah oui, mais c'est normal.
Non, mais oui, normalement. Enfin, là,
on peut avoir des surprises.
C'est quand même le meilleur joueur de terre des
bien
quatre
sûr.
Qui sont.
Non, mais c'est même pas la question d'aller chercher midi à 14h. C'est lui qui est
t'as
mieux classé.
C'est donc, Mika pas devant lui.
Bah non. Cette semaine, oui. Alors,
non, puis Mika sur terre.
Non, mais voilà, je veux dire, c'est pas la peine d'aller.
Mais mine de rien, Richard Gasquet n'a plus joué un match en jeu en position de numéro 1 français depuis 2007, me semble-t-il. 2008
Winston,
peut-être, mais 2007 je crois. Après il a carrément un peu disparu de l'équipe après l'histoire de Winston Salem.
Ouais, mais il a toujours été présent en attendant en finale de Coupe Davis. Il était là, il a fait
bien,
son job.
Ah bah voudrais mieux
pour lui. J'ai un mec
bien.
Qui joue bien, je trouve qu'il joue pas mal à Dubaï, il fait son truc. Il m'énerve un peu dans l'attitude, mais franchement pour lui j'aimerais bien qu'il fasse.
Ah voudrais mieux qu'il joue bien.
D'épaule, hein.
La double tendinite à l'épaule droite. Aïe aïe aïe.
Attendez parce qu'il y a un des deux, ils peuvent déclarer forfait aussi à la dernière minute. Ils y sont pas encore en Autriche.
C'est vrai, il y a une semaine encore avant d'y être. Mais bon, moi, Richard Gasquet, j'ai envie de le voir se relancer en équipe de France.
Ah bah, j'aimerais bien aussi.
Moi aussi, mais moi aussi. Il a plutôt intérêt parce que j'imagine même pas si par malheur ça se passe mal là-bas, comment on va le récupérer, le Richard.
D'autant, oui, qu'il jouera en numéro 1, donc il n'a pas le droit à l'erreur normalement le premier jour.
Ça peut être un peu qui tout double. Soit on va le relancer, soit on va nous le couler, quoi.
C'est une bonne occasion pour lui de clôturer le passé de tout ce qui s'est passé en Coupe Davis, même après.
Ouais,
est-ce que ça peut être
après,
une sorte de bouée aussi, cette Coupe Davis, de relance indirecte?
Moi, je trouve pas que ça soit... Il a fait son job l'année passée, il a pas joué, mais il a toujours été présent, il a fait le sparring. D'ailleurs, c'était soi-disant lui qui s'entraînait le mieux en Coupe Davis, donc... Voilà, après il a fait son job, je veux dire c'est le seul moment de la saison où ça devient un sport co, donc il faut se mettre au service de l'équipe et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, voilà, il va être sur le terrain, c'est à lui de prouver que moi ce qui m'embête un peu c'est qu'il gagne tout le temps ses matchs derrière et quand il joue un peu au-dessus et il baisse les armes et il fait le junior. Maintenant, là peut-être que le premier jour, il a peut-être pas joué Jürgen Melzer, mais en attendant, il faut qu'il montre que c'est lui le patron sur le terrain.
Bah, ça serait bien d'aller battre Jürgen Melzer. De toute façon, c'est Jürgen Melzer. Il y a ces deux matchs où il est favori en simple et il jouera le double. Donc, un des trois matchs, il faudra le gagner contre Melzer. Richard Gasquet, c'est d'ailleurs, il le dit lui-même aujourd'hui, et même Simon le dit aussi, sur terre battue, c'est un vrai bon joueur de terre battue qui aime cette surface, qui s'y adapte vite. Donc c'est tout bon pour nous.
Non mais c'est bien, de toute façon il s'y adapte vite, il sent bien cette surface, c'est sa surface préférée, il va s'adapter à la surface en 2-3 jours, c'est bon, il va retrouver ses glissades.
On voit les derniers tournois
de
sa saison sur terre battue, il gagne Nice en battant Verdasco en finale et il perd malheureusement en 5-7 contre Murray, mais bon il est complètement cramé en menant 2-7-0, donc moi je trouve qu'il a vraiment des grosses qualités pour jouer sur terre.
Ma seule inquiétude moi c'est le physique, imaginons qu'il aille nous faire un 5-7 là, dès le premier jour, on pourrait être très très mal, hein.
Je pense qu'il veut pas être sous le feu des projecteurs, il est vert là, de jouer en Coupe Davis.
Non, c'est le moment, il faut qu'il accepte.
J'espère pas, mais j'espère de tout cœur.
Il faut qu'il accepte. Écoutez, en tout cas, Guy Forget a beaucoup de choses à dire sur le retour de Richard Gasquet en Coupe Davis. Écoutez-le, le capitaine, c'est important parce que on sait bien que c'est un sujet un petit peu sensible, Richard Gasquet en Coupe Davis, et Guy Forget y croit beaucoup.
Richard, c'est un garçon qui a maintenant une vraie expérience de la Coupe Davis, qui a joué beaucoup de matchs, qui en a gagné. D'abord, des matchs qui étaient très intéressants, même s'il en a perdu aussi d'autres, contre des joueurs très forts, puisqu'il était numéro 1 de l'équipe de France pendant quelques années. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il a 25 ans. Il a traversé une période très difficile, on s'en souvient, l'année dernière. Je crois que maintenant, il prend vraiment ça comme un bonus, comme un nouveau départ. Il s'est très bien senti dans ce groupe. L'année dernière, il était présent sur quasiment toutes les rencontres, soutenant ses copains de manière remarquable. Et je lui avais dit d'ailleurs l'année dernière, tu sais Richard, à un moment donné, les choses vont tourner et tu vas avoir l'occasion de jouer en simple ou en double. Je veux dire, sois prêt parce que tu as beaucoup de talent, tu connais ta valeur, je la connais aussi, et qu'à un moment donné, de par ses résultats aussi, il va devenir indiscutable. Bon, il se trouve que là, c'est un petit peu aussi à cause peut-être des blessures des uns et des autres, mais son niveau de jeu, il est là, il a eu des petits pépins physiques, on l'a vu il y a 15 jours là, à l'épaule, il a gagné quelques matchs aussi à l'Open d'Australie, quand même, qui sont, qu'on le veuille ou non, significatifs. C'est pas un petit jeune maintenant, c'est plus un junior, Richard, c'est un garçon qui peut viser haut et qui est capable, à mon avis, de faire de très belles choses en Coupe Davis. Je le sens en tout cas beaucoup plus à l'aise dans le groupe, beaucoup plus impliqué peut-être qu'il ne l'était par le passé. Les joueurs qui sont dans le groupe, c'est un peu plus maintenant sa génération. Je crois qu'il a aussi beaucoup mûri, Richard, hein, et sur le terrain et en dehors. Et tout ça me laisse penser que justement, il sera capable, le moment venu, je dirais, de jouer un très très bon tennis sur le court face aux Autrichiens. Mais je crois qu'il a fait de cette Coupe Davis une priorité. Il a vraiment envie de retrouver sa place dans le groupe, puis surtout de montrer à tous ses copains et à tous ses proches, hein, que la Coupe Davis, c'est quelque chose qui est pour lui et qu'il va être capable de ramener des points précieux.
RTL L'Équipe, carrément tennis.
La maturité peut-être de Richard Gasquet à 25 ans, ce n'est plus un junior, ce n'est plus un débutant, il connaît la Coupe Davis, il a joué des matchs en jeu, on compte donc énormément sur lui dans cette confrontation face à l'Autriche de Jürgen Melzer. Un petit mot sur Simon, même si on l'a déjà évoqué, lui aussi va donc jouer en simple, titulaire donc, dès le vendredi. Il ne devait pas jouer, d'ailleurs c'était clairement établi entre lui et Guy Forget pour cette rencontre. Il vient, il va faire le boulot.
Il risque gros aussi, hein.
Qu'est-ce qu'il risque?
Ouais, à un moment donné, il faut prendre des risques aussi.
Parce que même c'est encore lui, c'est encore lui qu'on va envoyer au casque.
Mais non, mais il revient à son meilleur niveau. Il a
besoin de ça en plus,
bien,
Simon. Ouais. Il n'a pas gagné de match encore en jeu.
C'est un compétiteur. Il aime le
ouais,
combat.
C'est le matcheur, quoi.
Voilà.
Ah, mais quoi qu'il arrive, quand il sera sur le terrain, tu peux être sûr qu'il donnera.
Et puis là, je pense que s'il gagne, en plus, s'il y a un match un peu important le premier jour, logiquement, il va jouer contre Melzer et qu'il bat Melzer. Ça peut montrer que voilà, une fois de plus, on a réellement besoin de lui.
Mais ce genre de défi qui peut vraiment lui plaire. Voilà.
Ah mais oui.
Agis Simon.
Ouais, mais sur terre là, il va falloir qu'il progresse. Bon là, il est en quart à Dubaï, j'ai regardé ses matchs.
Il est pas bien. Hein.
C'est pas terrible. Hein.
Ouais, mais bon, il
gagne. C'est bien, c'est comme c'est un compétiteur, c'est un guerrier, il se bat sur tout. Mais il est quand même limité, tu vois, au niveau du service, il sert très très mal. Sur son revers, dès qu'il y a un joueur qui le bloque côté revers, il est incapable d'en donner de la vitesse, il est quand même avec sa technique quand même assez limité. Donc sur terre battue, c'est vrai que c'est pas...
Puis il l'a dit, là, il manque de foncier, il manque d'entraînement. Storticoli, ça lui a pourri un mois et demi. Donc il n'est peut-être pas non plus dans les meilleures dispositions.
Ouais, mais
j'espère quand même qu'il va y arriver.
Pour revenir, il y a quelques années, il arrivait à son meilleur niveau. Et quand il a vraiment fait un trou entre, disons, la 110e place et 20-30, c'est quand même sur terre qu'il était à chercher ses points. Gagnant Bucarest, en gagnant des Sopot, en gagnant des tournois sur des matchs et des tournois sur terre. Donc c'est quand même qu'il a un fond de jeu minimum.
Non, mais c'est pas une quiche.
La quiche, c'est Richard Gasquet au développé couché. Hein. C'est lui qui le dit matin dans les colonnes de l'équipe. J'arrive pas à faire plus de
70 kilos. Alors que Gilles est très bon, mais sans le savoir.
70 kilos.
Et Melzer, n'oublions pas.
Combien faisiez-vous au développé couché à l'époque, Julien Varley?
Logiquement, c'est...
à la patate chaude.
Non, normalement, c'est son poids plus 10 kilos. Mais j'étais un peu au-dessus, quand même. J'étais à 110 kilos.
Ah,
mais
je donc, pas il plus, est vachement bon, parce qu'il
fait
pas 90 kilos.
Faut que ce soit rapporté.
Et non, il fait 40 kilos tout mouillé.
Et il soulève
Par contre, Richard Gasquet, il soulève moins que son poids. Donc.
Ah, mais attends, il a mal au coude et à l'épaule.
Ah, il doit bien faire 70 kilos quand même, Richard Gasquet.
Il doit soulever son poids, il doit faire 70, hein, 72.
Ah, il doit faire un peu plus que 70, j'espère pour lui.
Non, il a bobo au coude et à l'épaule, t'as pas lu. Enfin.
Bon, voilà, non, c'est pas grave, hein, s'il gagne des matchs, s'il soulève pas 100 kilos développé couché, je m'en fiche.
Mais n'oublions pas que Melzer va avoir une pression de dingue sur les épaules quand même, parce que si lui gagne pas un match, son équipe est foutue. Et Melzer, c'est pas le plus stable.
C'est vrai, mentalement.
Hein.
Juste avant d'évoquer l'équipe d'Autriche et cet endroit à Vienne, on va jouer tout près de l'aéroport dans un hangar. Un petit mot également sur le double, qui sera composé de Benedetto Lodra. Normalement, c'est l'équipe sur le papier la plus forte.
Ouais, sauf que Benedetto, en ce moment.
Benedetto quand même n'a plus joué n'a joué que deux matchs depuis ses problèmes d'abord de poignet puis
baguette.
De baguette magique au restaurant japonais. Jouer un match de très haut niveau théoriquement, en tout cas en jeu comme ça,
ils
sur 3-7.
Ils ont une super équipe les Autrichiens.
Ouais, il a fait finale à Marseille en double.
Ouais,
donc,
non là,
ça va.
Ouais.
C'est la plus belle équipe sur le papier. Cela dit,
on a beau dire qu'on a Benedetto Lodra, c'est très très fort, mais je peux vous dire que Melzer Knoll,
c'est du très lourd.
Ça envoie du bois aussi.
Ça doit pas être mal.
Alors Knoll, qui est un vrai spécialiste de double, et Melzer qui s'y est vraiment mis, notamment dans le cas de la Coupe Davis. Alors, cette équipe d'Autriche.
Ouais, il est top 10. Hein, il a gagné Wimbledon et il est top 10 en double, Melzer. Top 10 en simple en double.
Il vient de gagner un tournoi il a gagné un tournoi il n'y a pas très longtemps.
Ah ouais. Ah oui, non, il est avec Pechner aussi à Rotterdam, je crois.
Alors, cette équipe d'Autriche, il y a Melzer, c'est clair, qui est vraiment l'épouvantail de cette équipe. Il y a Knoll qui est en double. Tient bien la route. Après, pour le deuxième joueur de simple, Kubek, qui est aux abonnés absents, 174e mondial, mais qui sur un match peut toujours être dangereux.
Il ne voulait plus jouer la Coupe Davis.
Et Martin Fischer, qui lui est un jeune un peu plus loin. Il n'y a pas de Eder Morer qui est déclaré forfait.
Ça, quelque part, c'est méchant à dire.
Le finaliste de Vienne l'année dernière.
Voilà.
Ouais, mais bon, il est bon sur dur. Beaucoup
moins mais bon, ça aurait pu être mauvais quand même.
Donc théoriquement, les deux points contre le numéro 2 en simple.
Attends, si on ne les prend pas, franchement, vu les barrages, si on ne les prend pas.
Donc une nouvelle fois, c'est le double alors qui va être ultra important.
Moi, je pense que ça va passer.
Moi, je pense que Melzer peut dégoupiller.
Moi, je pense que ça va être dans les difficultés, mais on devrait gagner.
Donc un 3-2, mais alors avec une victoire en double ou en somme contre Melzer?
Non, je nous vois passer à 2-1 et 3-1 le dimanche.
Moi aussi, j'ai envie de dire que moi, je sens bien Melzer dégoupillé, je sais pas pourquoi.
C'est plus le même joueur.
Il est quand même costaud depuis qu'il est arrivé dans le top 10. Hein.
Lui, la Coupe Davis, il a toujours eu de gros problèmes à assumer. Hein. Souviens-toi d'un match contre l'Allemagne, il mène 2-7-0, je crois que c'est contre Kohlschreiber, et tout d'un coup, houhou, il n'y a plus personne. Ça peut le rattraper.
L'Autriche n'a jamais battu la France en Coupe Davis, en tout cas. 7 matchs, 7 victoires de la France. Ouais. Bon, on espère que ça va continuer.
Un début à tout en même temps.
Les statistiques sont faites.
Simon avec Jusny.
Vous êtes top 10, vous. Oui, ça y est, il a enfin battu Jusny.
Ouais.
Voilà.
Bon, bah d'accord, merci.
Ah non, mais on est honnête. Okay. Bon, bah objectif.
Alors, je vous propose qu'on écoute Guy Forget sur l'endroit où va se tenir ce premier tour de Coupe Davis, dans un hangar tout près de l'aéroport. Ça non plus, c'est pas très glamour. Et peut-être que ça a rebuté certains au moment de faire leur choix pour venir disputer ce premier tour de Coupe Davis. Écoutez Guy Forget, en effet, qui nous explique ce hangar. Hein, ça va être dans un hangar tout près de l'aéroport.
Beaucoup de gens m'ont dit tiens, vous allez aller à Vienne. Ça va vous changer peut-être de Belgrade. Vienne, c'est une ville au niveau culturel qui est formidable. C'est très, très, très beau. Bon, on sera à l'hôtel à l'aéroport et on jouera dans un hangar. Donc, effectivement, on ne va pas aller à Vienne pour faire du tourisme. Ce qui nous importe, c'est uniquement le résultat de cette rencontre. Et j'espère qu'on pourra quitter Vienne le dimanche soir avec une victoire en poche. On se souvient qu'on a joué à Malmö une finale face à la Suède il y a quelques années. C'était pareil, c'était un espèce de grand dépôt dans lequel ils avaient construit un central de tennis. C'est pas très très chaleureux comme ambiance et pourtant on en garde un très bon souvenir parce qu'on s'était qualifié. J'espère que ce sera la même chose qui se produira à Vienne dans pas longtemps.
Guy Forget, lors de la conférence call avec Isabelle Langer et tous nos confrères radio en début de semaine au moment de l'annonce de son équipe pour ce premier tour de Coupe Davis. C'est vrai que ce sera pas très glamour, mais il a toujours le bon exemple. Hein. Malmö, voilà, on avait pareil. Et puis après tout, on joue bien à Madrid, un Master 1000 que tout le monde vante dans un hangar aussi, non? Dans une boîte en métal.
Mais Melzer l'a expliqué, il voulait d'abord la salle du tournoi de Vienne n'était pas disponible. Il y en avait une autre, ils n'ont pas aimé l'atmosphère, donc ils se sont dit allez, on va chercher autre chose. Fallait que ce soit à Vienne parce que Melzer est de Vienne.
Qu'est-ce que c'est beau, Vienne.
Voilà. Très belle ville.
Oh là là. Et donc ils ont dit il faut que ça reste à Vienne.
On entend d'aller à la maison de Sissi quand même ou quoi?
Je ne sais pas ça.
J'espère.
Si ils ont raison, ils font ça sur terre dans un hangar à Vienne à l'aéroport. C'est bien.
C'est bon ça. Non, ça peut être pas mal.
Bah, surtout qu'ils pourront tous rentrer très vite à la maison comme ça. Ils prendront direct l'avion après, ils rentreront plus vite à la maison.
C'est ça. Allez hop.
Bon, là, il y en a peut-être qui vont rentrer quand même, je pense. Non? Ça partira direct?
Oui, petit passage.
Ah, petit passage.
En Suisse.
Petit passage en Suisse.
C'est ça, à la maison.
À la maison. Ah ouais, il faut recharger un peu de tout avant de repartir pour une longue tournée américaine sur dur. Voilà, la Coupe Davis, rendez-vous, on vous la fera vivre sur RTL l'équipe. Vendredi prochain, les premiers simples en direct à partir de 14h30. Le double également à partir de 14h30 le samedi. Et puis dimanche, en cas de simple décisif, ce sera à partir de 13h30, cette Autriche-France à venir. Nous, on se retrouve dans 3 minutes pour la deuxième partie de Carrément Tennis.
RTL l'équipe. RTL l'équipe.
Croisé, courte, gagnante.
Carrément Tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis, toujours en compagnie d'Émilie Loi, de Myrtille Rambion, de Carole Bouchard et de Julien Varlet. On va se plonger dans l'actualité, bien sûr, des tournois masculins et féminins. Revenir quelques minutes sur le succès de Robin Söderling à Marseille. Pas de coup de pompe pour le Suédois qui enchaîne Rotterdam donc. Et Marseille, c'est vraiment le meilleur joueur actuel en indoor en tout cas. Et puis les meilleurs, eux, reviennent aux affaires cette semaine du côté de Dubaï, notamment Roger Federer et Novak Djokovic, tous les deux qualifiés pour les quarts de finale, tout comme Thomas Berdych. Un quart de finale qui nous intéresse encore plus, c'est Simon Gasquet, ça aura lieu ce soir. Raphaël Nadal, lui, est encore au repos avant de reprendre en Coupe Davis justement, puis lors de la tournée Indian Wells Miami. Chez les filles, on reviendra sur la victoire à Dubaï de Caroline Wozniacki qui reprend du même coup la place de numéro 1 mondial. La finale de Mathilde Johansson à Bogota et Justine Hénin qui s'est exprimée dans les médias belges et qui n'a pas dit que des choses très très gentilles. Justine Hénin qui a fait parler d'elle et qui fait la polémique du côté de la Belgique. Elle n'est plus sur les cours mais on parle encore beaucoup là-bas de l'autre côté de la frontière de Justine Hénin.
RTL équipe, carrément tennis.
Alors Dieu sait que je ne le porte pas spécialement dans mon cœur parce qu'il n'est pas franchement sympathique, même si c'est un peu mieux qu'avant. Je reconnais.
Mais j'ai changé d'avis.
Ah bon ?
Mais de qui parlez-vous ?
De Robin Söderling.
Ah !
Qui vient d'enchaîner Rotterdam et Marseille, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison à l'Open d'Australie, qui a gagné 3 tournois, qui est vraiment l'homme de ce début de saison et qui confirme semaine après semaine, mois après mois, il est vraiment très fort.
Il est formidable.
Mais même mentalement.
C'est un super joueur. Ouais. Non, mais c'est un super joueur. Le type, c'est le meilleur joueur en indoor du monde. Et en plus, il assure. Quoi. C'est vrai qu'on parle de ce côté mental là, qu'il avait acquis depuis 2 saisons au moins. Mais ça dure.
Hein.
Ça dure, quoi.
Même en finale
et
à Marseille.
Et le gars, il est capable d'enchaîner.
C'est ça.
Il enchaîne.
Parce qu'il n'était pas très bien à Marseille. En finale, il est mis encore d'un set. Et il se bat. Il chouine un petit peu. Mais ça ne prend pas des dimensions comme avant. Et alors moi, ma surprise, c'est qu'en dehors du cours, moi aussi, j'ai pas mal d'a priori. Parce qu'il m'agace à tout le temps pourrir son coach ou autre. Le garçon est absolument adorable. Vraiment.
Il a progressé de ce côté-là.
Ah ouais, je pense que c'est aussi un
peu avec l'âge et l'expérience. Il partait de loin. ça ne pouvait
que s'améliorer.
Ouais, puis je trouve qu'il
a
vraiment...
À part Martino Rio, je crois qu'il n'y a jamais eu un joueur moins sympathique. Quoi.
Si, Berdych.
Ah, Berdych.
Avec certains joueurs.
Ça l'est toujours, Berdych. Je crois bien, par contre.
Mais après, je trouve, moi, ce que je trouve vraiment bien, je pensais qu'en changeant d'entraîneur, en plus de passant de Norman à Pistoletti, ça allait peut-être casser quelque chose. Ça n'a pas l'air du tout, ou bien au contraire. Et vraiment, je trouve qu'il a son fil conducteur. Il continue à jouer comme il sait le faire. Il progresse même aussi un petit peu dans ses déplacements. Il est un peu plus agile. Il fait du travail de pied. Ce qui est important pour lui, c'est vraiment là où il va progresser. Donc, moi, je trouve que... Puis j'apprécie avec ses grandes frappes de coup droit et tout ça. Ça fait un peu bourrin.
Qualité de frappe.
Bûcheron, mais voilà. Après, il est solide.
On s'étonnait après sa première finale à Roland-Garros, savoir s'il pouvait tenir dans ce top 5. Derrière, il défend cette finale et il en fait une autre.
Ah,
donc
c'est
déjà,
fort,
c'est un élément de réponse. Et là, encore en début de saison 2011, Émilie, il confirme, hein, c'est le joueur qui a le plus gagné depuis le début de la saison. Bon.
C'est le joueur qui a le plus gagné, mais qui n'a pas bien joué à l'Open d'Australie.
Voilà.
C'est ce qui fait la différence.
Il perd contre Dolgopolov, ce qui est, c'est vrai, un vrai couac.
Mais il est super solide à son niveau 5, dans le top 5. Après, en indoor, c'est indiscutablement le joueur le plus performant, mais il faut qu'il progresse dans les tournois du Grand Chelem. Même s'il a fait finale à Roland, il faut qu'il se montre encore plus régulier. C'est vraiment aller chercher la petite bête, mais face encore... bien meilleur pour monter au
c'est quoi encore un petit peu alors sur le plan mental forcément mais aussi peut-être sur le plan physique gagner un petit peu en rapidité en légèreté est-ce qu'il le peut
mais aller vers l'avant aussi parce qu'il disait maintenant il faut que j'arrive à me sentir à l'aise au filet. Je pense qu'il a pas tort parce que dans la régularité de fond de court je pense qu'un garçon comme Djokovic à cette cadence là est plus fort que lui donc à un moment donné il va falloir qu'il profite aussi de ses grandes frappes pour faire la différence. Mais est-ce que Émilie a raison, le seul match qu'il rate c'est en Grand Chelem. Est-ce que là c'est pas aussi franchir un cap de se dire ok maintenant j'ai des attentes pour moi, il faut y aller quoi, mais il a les moyens.
Ouais, mais c'est pas mal ce qu'il fait.
Ah, il est
ouais,
fort,
non, puis avec alors à sa décharge, c'est vrai qu'il a aussi un style de jeu qui est un peu particulier quand on voit les autres joueurs du top 10, c'est qu'il joue vraiment très rectiligne, donc toujours très tendu, beaucoup de prises de risque. Donc c'est vrai que voilà, ses progrès sont peut-être le jeu vers l'avant, trouver un peu plus de mains. Parce que de temps en temps, même s'il a progressé, c'est un peu difficile. Et puis cette vélocité, ce pied qui permettra d'être un peu plus précis sur les glissades.
Alors on l'a dit, c'est anecdotique, mais son nouvel entraîneur Claudio Pistoletti, l'Italien, a dit avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, il a remplacé Magnus Norman en fin de saison dernière. Il avait un CDD d'essai de 3 mois. Bon ben voilà, le CDD se termine. 3 victoires sur 4 en tournoi. il dit bon, normalement, je devrais être embauché.
J'aimerais savoir où il allait le trouver quand même.
Le choix avait surpris.
Oui, il avait voulu le Hochstedt là qui est parti avec Sharapova, donc c'était pas possible. Donc
Thomas Hochstedt, Claudio Pistoletti, mais il a entraîné Anna Smashnova.
Pour ceux qui ne se souviennent pas de Claudio Pistoletti, donc un Italien brun, pommate, joueur plutôt genre Thierry Champion dans la bâche de fond de cours avec des gros lifts, avec les chaussettes bien rouges et voilà, pas trop sur derrière.
Non, mais c'est étonnant justement comme choix. Et
puis ces dernières années, il a surtout entraîné des filles aussi, plus que des garçons.
Mais si tu t'en sors bien avec des filles pendant plusieurs mois, tu sors tes non mais c'était gratuit.
Non mais il lui fallait aussi un mec avec du tempérament.
Après on est pourri l'équipe de France de Coupe Davis.
C'était pas l'entraîneur de Sepi.
Ah, Andreas,
il a entraîné aussi des Japonais.
Mais donc,
ouais, et ben moi je l'ai vu à Bercy. Et à Bercy, il était avec qui? Il était avec Sepi d'ailleurs, il me semble.
Ah oui.
Sepi qui est un joueur.
C'est intéressant de voir comment ça va se passer entre les deux. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'a priori, on voit pas pourquoi il signerait pas le CDD au moins pour un peu plus longtemps.
Les choses se corseront quand il aura perdu un ou deux matchs. Peut-être, c'est là qu'il est peut-être plus difficile à gérer. Mais pour l'instant, il y a pas de raison.
Où est l'intérêt en fait de l'entraîneur pour Robin Söderling, quoi? Non, je rigole.
Ça y est, quand même,
le canaliser.
Non, mais on pouvait. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, je pensais que la rupture avec Norman, ça pourrait poser problème parce qu'il avait bien tourné la vis avec le garçon. Et finalement, il a tellement pris le pli que.
Ouais,
on va
mais
voir.
Il vieillit aussi, hein, Söderling. Et puis maintenant, oui. Il a tellement gagné de matchs. Et puis, il sent qu'il est fort sur le circuit. Voilà,
enfin, Norman, il était capable de le pourrir quand même. Enfin, Söderling, hein, je me souviens, à Nice l'année dernière.
Ouais, cela dit, quand on parle là-dessus, je veux dire, il y a aussi un David Ferrer, Ramir Piles. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Le pauvre Piles, de temps en temps, il en prend quelques-unes.
Ouais,
enfin,
dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc ouais,
il y avait anciennement Tommy Haas qui était aussi très doué pour genre de. Il y a des coachs que je plains.
Non, mais il y en a qui fonctionnent comme ça aussi. Hein. Oui. Ça leur fait pas de mal. Alors, vous parliez dans les progrès à faire pour Robin Söderling, c'est ce jeu vers l'avant, peut-être venir plus au filet aussi. Il y en a un autre qui, lui, pourtant, est déjà au top du top et vient de gagner l'Open d'Australie. Qui a fait de ce chantier l'une de ses priorités pour l'année 2011, c'est Novak Djokovic, qui est en quart de finale à Dubaï, donc qui est revenu, c'est la première fois qu'on le voit jouer après sa victoire à Melbourne, il a battu Laudra puis Feliciano Lopez, et Novak Djokovic a donc déclaré qu'il allait jouer très régulièrement le double cette saison, parce qu'il veut notamment progresser dans son jeu au filet, comme Nadal a fait évoluer son jeu, comme d'autres avant lui, il dit, voilà, maintenant je suis vraiment très costaud du fond, il me faut encore plus pour aller viser plus haut, et donc je vais jouer beaucoup les doubles. C'est un peu intéressant, ou est-ce qu'il va se cramer?
Enfin, franchement, perplexe, hein. C'est à la fois, ça part d'un bon sentiment. Oui, il faut jouer en double pour progresser son jeu vers l'avant. Mais tu le fais quand tu as 17-18 ans. Là, il joue quand même toutes les semaines. Il joue bien toutes les semaines. Il a gagné un tournoi du Grand Chelem. Il va en gagner très certainement un autre, un de ces quatre. Aller jouer en double physiquement, il est dingue.
Bah, moi, ce qui me laisse perplexe, c'est cette première chose, c'est de se rajouter des matchs. Alors, ouais. Quand on s'entraîne pas, quand on joue pas en match, on s'entraîne, mais bon, est-ce que voilà, se mettre un double en plus, c'est peut-être une surcharge. Et puis ensuite, moi, sincèrement, si je travaille un truc, je vais pas le dire à la presse, quoi.
Oui, mais le chantier, il l'avait déjà lancé avec Todd Martin.
Je vais pas les vanter. Ouais, bah maintenant, je vais progresser au filet, quoi.
Bah, ouais, il va jouer les doubles.
Ça va se voir.
Est-ce que c'est pas moi j'appelle ça l'influence Rafa. On a tellement vanté le fait que Nadal à chaque fois il améliore son jeu, mais quand il est au top, est-ce que les mecs derrière se disent pas, ok, ça marche pour lui, alors à mon tour.
Non, mais ça c'est obligatoire. Tu vois.
Et je pense que ça
c'est
besoin. Voilà.
De toute façon, c'est une obligation de s'améliorer, même si t'es numéro un mondial.
Oui,
le niveau évolue.
Y en a qui pensent pas. Hein.
Oui, non, mais ça c'est un problème.
Qui pense plus.
Qui n'y pense plus, mais c'est obligatoire. Oui.
Pas de qui vous voulez parler.
Et le chantier avait été lancé avec Todd Martin. On se rappelle que Todd Martin était arrivé justement pour son jeu vers l'avant. Sauf qu'il y a eu la crise du service qui est passée par là et on l'a oublié.
Non, mais la vraie interrogation, elle est sur le plan physique, ouais, en effet, pour se rajouter, parce que c'est déjà un peu un stacanovis des cours, Djokovic. Mais est-ce que c'est pas justement maintenant qu'il peut encore le faire? À son âge, il est quand même en pleine bourre physique.
C'est un
il ne le fera pas dans 3 ans. Donc,
Souvenez-vous de Kafelnikov, c'est le dernier dont je me souviens qui était top joueur et aussi.
Il n'a peut-être pas le faire dans tous les tournois.
Voilà. Moi, je trouve que de le dire, bon, moi je ne l'aurais pas dit, mais après, c'est vraiment un détail, hein, parce que je trouve quand même qu'à la volée, maintenant, il n'est pas non plus. C'est un petit détail, c'est avoir une volée juste un peu plus tranchante et sur des volées un peu plus faciles, finir le point. Donc c'est vraiment.
Ah, mais c'est justement ces petits détails qui feront peut-être qu'il ira accrocher la place de numéro 1.
Ce petit détail, tu le travailles réellement en double?
Pas sûr.
Pas sûr. Mais bon.
En même temps, le double avec Murray Miami, ça peut être drôle.
Ça peut être sympa. Question posée, en tout cas.
Ouais, mais après, en double, on est deux. Hein. Donc, jouer avec Murray.
Ah bon
si... Non, mais si lui est motivé, je suis pas sûr que son.
Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça, c'est de l'info.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si lui est motivé, est-ce que son partenaire est en l'occurrence Murray. Miami, ça serait Murray. Est-ce que Miami, Murray sera motivé aussi? Voilà, c'est ça aussi la question.
Bah, il paraît que Murray à l'entraînement maintenant déconne. Peut-être qu'en double, on va le voir un peu rigoler.
Mais c'est un drôle, qui se cache.
Mais est-ce que sa maman sera au bord du coup?
C'est ça, bien pour les tournois que.
Oui, voilà.
Oui, bien sûr. Oui,
médiatiquement, c'est un très bon coup.
Pour le double, c'est très bien. C'est vrai. Autre retour.
Juste une dernière petite chose. Celui dont on parle très peu souvent, mais qui joue aussi beaucoup en double, mine de rien, c'est quand même Nadal. Hein.
Oui.
Bah oui.
Il l'est fait, c'est
Et ça l'a bien aidé. Hein.
Pas en grand chelem, mais sur les tournois un peu moindres, il les joue.
Et il en a gagné pas mal.
Bah encore Doha en début d'année avec.
Même avec Robredo. Nadal Robredo, c'était quand même la paire de double la plus improbable du monde. Et ben ils arrivent à gagner.
Djoko a gagné au Queens l'an dernier.
C'est vrai.
Avec
Karish. À voir. Autre retour, alors lui pas en double, hein. Il se concentre sur le simple, c'est déjà pas mal. C'est Roger Federer, qui mine de rien, bah, à chaque fois qu'il revient un peu aux affaires, hein, ça nous intéresse particulièrement. Bon, il a eu deux petits matchs hein, contre Dewarman et Granollers pour commencer. Il joue Stakowski et puis et surtout, ça serait bien, hein, si Simon ou Gasquet derrière, on a envie de voir ça. Federer, mine de rien, il n'a pas un programme si léger que ça. Bon, Dubaï, il aime bien. Hein.
Il n'était pas l'an dernier quand il a gagné Melbourne.
Il joue à la maison.
Là, il joue à la maison à Dubaï. Maison.
Puis comme ça, il peut se rapprocher un peu, enfin garder de l'écart avec Djokovic aussi au niveau du classement, parce que passer numéro 3, je pense que ça lui plairait pas du tout.
Puis il a besoin de rythme quand même. Ouais.
Bah, ça s'est vu dans les deux premiers matchs. Hein.
Talent, ouais. Quand même
même
bien,
si mais... c'est l'empereur, il a quand même besoin de taper dans la balle, quoi. Je veux dire, non, mais ça tombe
mais
pas
ça
non
s'est
plus
senti,
du ciel.
Hein. Ça s'est senti dans les deux premiers matchs.
Une belle chemise rose et jaune.
Elle est atroce, la chemise Toussaint là, la même que celle de Berdych.
Ah, ça faisait longtemps qu'on avait pas parlé chiffon.
Ah non, mais elle est atroce.
C'est parce que les filles approchent que vous, non?
Mais
non, mais les équipementiers se déchaînent.
Ah ouais, je vous renvoie à celle de Wozniacki, numéro 1 mondial, de tenue.
Celle de Melbourne,
voilà, cette semaine, elle est... oui. Non, c'est pas
c'est
mal.
C'est plus sobre, hein, cette
semaine. C'est pas mal.
Parce que celle de Melbourne,
c'est
était juste...
couche là, on devine le rose sous le blanc. Là.
Non, mais là, c'est mieux, là.
C'est comparé à Melbourne...
Elle a perdu, elle est vachement plus fine.
Ah bah, oui. Elle était limite, de ce côté-là.
Bah ouais, mais c'est impressionnant, là.
Mais non, mais c'était sa robe, la pauvre, c'était
la
genre fantasia, elle y pouvait rien.
Ah bah c'est sûr que
la ballerine, quoi. C'est l'image de la
moyen,
femme. L'image de la femme athlète, oh, la ballerine sur le court, dramatique.
Dramatique. Bon, ouais, c'est chiffon, hein, c'est
comme
ça.
Donc ça veut dire qu'on va parler des filles.
Bah oui,
ah,
bien
sûr. Cela dit, avant d'engager, moi, j'ai un coup de gueule. C'est la semaine passée à Dubaï, je trouve ça hallucinant d'avoir fait quand même jouer Wozniacki contre Sharper sur un terrain annexe complètement fermé parce que soi-disant on
l'an
avait
dernier,
peur.
C'était pareil.
Ouais, non mais c'est tout.
Non, mais là où il y aurait eu gros problème, si elle était allée en demi ou en finale.
Moi, je
mais Vénus l'an dernier,
je trouve ça dégradant pour Sharper.
Bah, oui.
Surtout que c'est sur un court annexe, c'est-à-dire qu'elle est en tôle, quoi, complètement fermée. Avec
mais
des...
même pour Wozniacki, je veux dire, les numéro 2 mondial.
Mais Vénus Williams, l'an dernier, avait été joué
là,
pareil
on,
dans ces
on parle du sport, l'esprit du sport, le ceci, puis on. Je trouve ça.
Et la WTA laisse faire.
Et regardez à Acapulco cette semaine, c'est toujours le
oui,
tournoi
mais c'est
d'habitude
d'autres raisons.
Où c'est la fête. Non, mais là, cette semaine, on a parlé beaucoup aussi de risques autour du tournoi.
Oui, mais ça, c'est différent. Tu restes dans l'hôtel, il n'y a personne qui joue
c'est
dans une cage.
C'est pas une seule joueuse.
Ah, tu vois aussi, c'est vrai que c'est pas, ça n'a rien à voir avec le tournoi, mais tu dis, oh, lâche, quoi. C'est...
Ah bah oui, mais c'était ça, annuler
bon,
le tournoi.
Il hein. n'y a pas eu de forfait de dernière minute.
Nalbandian
Ouais, bon, Nalbandian.
Ah bah pour le tournoi...
Comme Contador, comme d'hab...
Pour le tournoi, tu perds Nalbandian, t'as un peu les boules. Hein.
Ouais, mais il y a quand même du Ferrer, du Monaco, du Verdasco.
Verdasco,
il a perdu.
Alors, je explique Verdasco, dans 15 jours, il rechange de nouveau de raquette. Hein. Il va prendre ses anciennes mains. Voilà.
Comme David Enko, qui a pris ses anciennes raquettes.
Qui a perdu, mais qui. Moi, je trouve que ça commence à revenir, la mini.
Il serait temps, parce que ça fait quand même.
Ouais, mais tant qu'il a pas joué ses 100 matchs, lui, il est pas.
On était parti sur les filles.
C'est pas moi.
Non, mais je recadre les choses.
Transition homme-femme, je trouve que. Non, mais pour en revenir,
parce
j'ai regardé
beaucoup, ensemble,
Dubaï, quand femme. Même la plupart des mecs qui sont alignés à Dubaï sont à 2%. Entre les abandons, les joueurs qui balancent, il y en a qui ont une motivation qui est de l'ordre de 2%. On dit que chez les filles, les matchs sont pas très intéressants. Tu vois, les premiers tours de Dubaï, sors-moi un match qui a été sympa, il n'y en a pas eu.
C'est vrai.
C'est bien.
Voilà, et Murray lui a carrément déclaré forfait. Moi.
Ah bah, c'est mieux que l'an dernier quand il a dit bon, j'ai perdu, mais je m'en
Julien
fous.
Julien est en train d'essayer de regarder le tableau.
Alors les filles, l'info de la semaine chez les filles, on s'y attendait un peu, c'est que Wozniacki a repris la place de numéro 1 à Kim Clijsters en gagnant le tournoi de Dubaï quand même.
Très bien.
Et de belle manière.
2-7 contre Kuznetsova, pas mal.
Elle a battu Pire, elle a battu Jankovic, elle a battu Kuznetsova. Elle a fait son tournoi de numéro 1 mondial.
Pour moi, c'est un exemple. Cette joueuse est un exemple. Alors, sur les tournois à la secondaire, on parle de motivation chez certains. Elle, c'est tout juste monstrueux. Moi, franchement, j'adore.
Mais
j'adore,
pour elle, pour l'instant, les tournois secondaires, c'est quand même ce qui fait qu'elle est là, justement, numéro 1 mondiale.
Mais en attendant, elle joue tout le temps, elle est hyper régulière. C'est toujours le même débat, en fait, on en revient là. Mais souvenons-nous de Kim Clijsters, qui, avant, dans sa première carrière, était devenue numéro 1 mondiale, comme Amélie Mauresmo à l'époque, sans gagner le grand chelem. On se disait, ah ouais, mais c'est pas juste, machin. C'est comme ça, c'est le classement qui fait ça. En attendant, Caroline Wozniacki, elle a toujours pas gagné de titre majeur, c'est vrai, mais elle joue super régulièrement. Elle gagne. Là, ça se trouve, elle va enchaîner.
Elle enchaîne,
à Doha,
parce qu'elle est à Doha. Elle a
et on trouvera
Petrova.
Ça normal. Et elle va peut-être nous enchaîner à Indian Wells ou à Miami. Enfin, voilà. Et c'est respectable.
Mais, et puis surtout.
Tant que Kim Clijsters, par exemple, qui pour le moment, est celle qui pourrait lui disputer un petit peu plus ce rang-là, on se dit, parce que les autres derrière, on les voit vraiment très loin, elle a décidé de ne pas jouer suffisamment. Donc. Non, Wozniacki, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais chapeau.
Elle enchaîne, en tout cas, parce qu'elle est à Doha.
Moi, je prends aussi la comparaison avec une Dinara Safina, qui, à l'époque, était numéro 1 mondiale, qui jouait beaucoup, qui n'a pas gagné de gros tournois, mais qui, elle, ensuite, a déjà dégoupillé, puis physiquement, n'a pas suivi.
Ouais.
Alors que Wozniacki, elle, même si elle joue beaucoup, physiquement, elle tient, et puis elle a toujours cette motivation. Donc, à un moment ou à un autre, elle n'a peut-être pas gagné encore de grand chelem, mais en attendant, elle est présente, quoi.
Alors, du côté de Doha, c'est également Marion Bartoli.
Très bien, Marion.
Qui démarre parfaitement bien son tournoi, puisqu'elle a battu Klaibanova.
Très bien, ça.
Qui est une sacrée cliente, quand même. En 2-7, et derrière, elle bat Charpire. Bon, elle lui met une doudoune.
1-0.
Bon, Charpire...
Charpire, c'est un peu sa bête noire, quand même, à Marion. Et puis, elle sortait d'un quart à Dubaï. Elle était bien, Char. Hein.
Donc, Marion Bartoli est en quart. Elle va jouer contre Peng.
Après, c'est vraiment sa surface de prédilection. Le dur. Semi-lent, elle prend bien la balle tôt, la balle lui vient au corps, donc elle peut bien contrer avec ses quads demain. Cela dit, tant mieux. Hein, Après, c'est sa blessure d'Australian Open.
Il n'y a plus de soucis physiques, c'est déjà pas mal, fin du mois.
Bah,
pas cette semaine.
Hein. Non, mais c'est bien, on a besoin d'une Française qui gagne un peu. Donc, merci Marion.
C'est vrai, les autres...
Voilà.
Mathilde Johansson qui a fait finale à Capoco quand même.
Parlons-en, voilà, parce que c'est pas quand même toutes les semaines
qu'on
parle de Mathilde Johansson dans Carrément Tennis. Ça nous fait très plaisir de parler d'elle. Elle a fait une finale à Bogota.
À Bogota, j'ai dit Acapulco. Je suis trompée de semaine.
Alors là, nos Françaises ont perdu à Acapulco.
Oui, Pauline Parmentier et Mathilde Johansson, voilà. D'ailleurs. C'est bien une petite finale à Bogota quand même.
Franchement,
on la voit plus sur les tournois secondaires en général.
C'est super. En plus, là, elle revient dans les 100. Ça faisait quand même.
Même 74.
Belle durée, elle est 71.
Elle se rapproche d'Alizé Cornet.
Donc ça c'est bien. En plus Bogota avec des conditions altitude.
Ah oui, j'aime bien quand Émilie vous explique. Expliquez-nous parce qu'il paraît. Attendez, parce qu'on se dit nous vu d'ici la tournée sud-américaine, on enchaîne. Mais en fait c'est super différent entre Bogota et Acapulco.
Ah oui, c'est la plage 2009, et l'autre.
C'est 2009, il me semble Bogota. Donc par contre j'aurais pas misé. Mais vous avez pu me poser la question la semaine dernière sur une Mathilde Johansson en finale à 2009. Non. Alors là
d'altitude.
D'altitude.
Ouais, 2009 d'altitude. Là elle sert pas très bien. Et elle a quand même des trajectoires, elle prend énormément, très à plat. Donc tout ce qu'il ne faut pas normalement pour l'altitude à Bogota. Donc ça va très bien à une Dominguez Lino, par exemple, qui a remporté le tournoi. Donc vraiment chapeau à Mathilde d'avoir fait cette finale.
Elle bat quand même, elle commence par une victoire sur Alep,
pas mal.
La Roumaine. Elle enchaîne par Meusburger, elle bat Castano et puis Suarez Navarro quand même en demi-finale.
La peau Suarez Navarro, entre guillemets, qui la peau, mais elle avance plus. Elle, depuis qu'elle s'est gravement blessée à la cheville, elle met plus rien. Enfin,
c'est pas non plus.
Ah, des bonnes rats de terre.
Castano,
hein.
La colombienne, quoi.
Ouais. Et elle, c'est une cliente sur terre battue.
Parce que les supporters colombiens.
Ils sont chauds.
Ils sont chauds.
Alors, vous parliez du service qui est en effet pas son point fort. Je suis quand même obligé de le souligner. Non pas méchamment,
pas
mais
obligé,
parce que.
Vous avez envie de le faire.
Non, mais c'est anecdotique, la pauvre. Je suis désolé pour elle, c'est pas grave. Non, pas du tout. Ça me fait jamais plaisir de voilà si. Parce que il faut donc on va expliquer le scénario de cette finale entre Mathilde Johansson et Dominguez Lino. Mathilde gagne le premier set 6-2 et elle perd derrière 6-3 6-2. Et dans ce deuxième set qu'elle perd 6-3, la pauvre Mathilde Johansson.
Vous voyez pas que Eric Silvestro, chers auditrices et auditeurs, a un petit sourire en nous racontant.
Non mais la pauvre, je vais vous dire, c'est même pas moi qui suis tordu au point d'avoir suivi ça. C'est Julien Reboulet, notre confrère de l'équipe.
C'est ça, c'est pas
je salue avec qui j'étais.
Vous
êtes en train de balancer tout sur Julien Reboulet. T'es pas là, t'es gonflé.
Avec qui j'étais dimanche.
Présent le jeudi.
Allez, sors là ta stat.
Et alors dans le deuxième set, figurez-vous qu'elle a fait la pauvre 8 doubles fautes. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est que sur ses 8 doubles fautes, elle les a fait sur 9 deuxièmes balles. C'est-à-dire qu'elle a eu 9 deuxièmes balles à jouer dans le deuxième set et elle a fait 8 doubles fautes.
Et donc, quelle est la conclusion générale
pour un méchant.
Non, c'est
juste anecdotique, mais voilà.
C'est un problème
au service. Quand même un petit problème au service et surtout peut-être problème aussi de peur de gagner. Elle mène un 7-0, elle est en finale.
C'est pas dire.
Ce qui est quand même, je rigole de ce que tu dis parce que tu me fais rire. Moi, il y a 2 ans, je suis allé voir son entraîneur et je lui ai amené la statistique comme quoi elle était numéro 1 mondial des
doubles
fautes, la pauvre.
Et c'est pas une première en plus à Roland. Elle avait eu 8 balles de match au premier tour. Elle avait fait 4 doubles fautes sur les 8 balles. Bon, il faut encore un petit peu de travail sur le service. Et c'est vrai que du fond, elle tape bien.
Quand tout rentre, oui.
Mais bon.
C'est bien, 74,
elle est en finale, on est content pour elle.
Voilà. Oui, mine de rien que pour. Alors après, j'espère pas dire de bêtises.
Allez,
mais
deuxième.
Non, c'est pas ça.
Pour arriver en finale, même si t'as pas de service.
Pour arriver à un certain classement chez les filles, c'est surtout la régularité qui paye plus qu'un coup fort ou quoi que ce soit.
C'est vrai.
Ça se prouve par Wozniacki, même si Wozniacki a fait des progrès, elle vient un peu plus vers l'avant, mais elle, c'est surtout une joueuse très très régulière.
Voilà, en tout cas, moi je souhaite le meilleur à Mathilde Johansson et n'allez pas croire des choses.
Jamais. Ouais.
Non, pas du
tout. Cela dit, et je dirais encore un peu plus, tant mieux parce que ça permet d'avoir une demoiselle dans le tableau final pour Roland parce qu'il faut avoir quand même un contingent important quand on approche Roland.
Oui, les wildcards.
Ouais, non, mais
qui tu donnes la wildcard, attends.
C'est ça.
Donc, on relance le débat là.
Non, il y en a pas mal. J'ai fait le calcul.
Aravan Reza
déjà.
Qui est parti faire des essais.
On a le temps.
En Espagne.
Attention, là, j'y ai parlé. Il va vous mettre un carton rouge.
Valence.
Bah, Roland Garros, c'est.
Des nouvelles d'Aravan Reza qui est parti se tester dans la structure d'entraînement de Juan Carlos Ferrero à Valence.
Ah, très ça peut lui faire du bien.
C'est une bonne idée, moi, je trouve.
Elle revient à Montréal, là. Donc
on verra ce que ça donne, mais on verra avec qui elle s'entraîne à l'avenir. Mais c'est pas mal.
On attend pour juger Aravan Reza, on va la laisser un petit peu. Elle aussi a demandé un petit peu de calme autour de son cas. Et ben, très bien, on la laisse travailler. On attend qu'elle revienne sur les cours. Attention, elle a quand même des gros points à défendre, hein, notamment ce tournoi de Madrid, bien sûr, l'an dernier.
Ouais, mais là, je pense qu'on est au-delà de ça. Quoi.
Oui, on dépasse. On compte pas les points là. On cherche d'abord à retrouver du plaisir et un niveau de jeu. Sur le cours pour Aravan Reza. Un petit mot de la retraitée.
Ah punaise, lance-moi sur mon coup de gueule.
Justine Hénin, le coup de gueule de la semaine.
Ah si, parce qu'elle
de m'agace. Carole Bouchard. Elle s'est exprimée.
Non, mais à un moment donné, il faut apprendre à réussir sa sortie. Elle avait déjà raté la première, elle est en train de rater la seconde.
Tenter de chanter du Lara Fabian à la télé belge, je sais pas si
entretien
de
Justine Hénin. Entretien de Justine Hénin à la RTBF qui a fait un score pourri, donc tant mieux. Alors oui, j'ai triché contre Serena Williams à Roland Garros. Oui, j'ai triché contre Kim en finale de.
Mais tricher, c'est-à-dire.
Bah, le coup de la main, Serena, oui, j'ai la main. Il y a un ace, j'ai fait la main pour pas que l'ace soit compté. Oui, la balle de Kim, elle était bonne, je l'ai vue, mais j'ai dit qu'elle était out pour gagner le point. Amélie Mauresmo à l'Open d'Australie en 2006, bah, j'avais
quand
trop mal. Voilà, j'avais
trop
mal. J'avais trop mal pour gagner. C'est pas la même chose, excusez-moi. Et puis, dernière chose, je souhaite bien que Kim ne batte pas mon nombre de titres en Grand Chelem parce que bon, je voudrais rester la référence. Alors, il y a un moment. Mais il y a un moment.
C'est
donné...
l'honnêteté.
Mais non, mais il n'y a pas
de problème.
C'est du Justine Hénin, quoi.
Mais c'est scandaleux.
Après coup, mais honnête.
C'est tellement pas
après
sur
bah
non, mais c'est pas sur
ah, bah oui, sauf que pendant des années, on a eu droit. Mais non, je suis pas une tricheuse. Ah non, non, j'avais vraiment levé la main.
Personne l'a cru, ça.
Ah bah oui, mais bon, il y a quand même eu des. Moi, ça me fait. Mais tais-toi.
Si, la moitié des Belges, les Wallons.
Serena s'est fait pourrir à Roland Garros par tout le public à cause de ça. Donc
moi, je croyais que vous alliez nous dire qu'elle avait annoncé que quand elle avait arrêté sa première fois, c'est parce qu'elle était dopée.
Ah non, ça, elle en avait parlé. Elle en avait parlé juste après sa fameuse conférence qu'elle
c'est
a faite dans ce bar-restaurant qui s'appelle Chez Mamie Louise.
Elle est dépressive ou quoi?
Ah, mais je pense que c'est ça.
Elle fait sa thérapie via les.
Est-ce que t'as souvenir d'une joueuse ou d'un joueur
entre deux chansons de Lara Fabian?
Mais est-ce que t'as souvenir d'un ancien numéro 1 mondial? Est-ce que t'as souvenir d'un ancien numéro 1 mondial, homme ou femme, qui va te dire après sa carrière, ah oui, j'étais une tricheuse?
Bah, Agassi dans son bouquin. Excuse-moi, de se charger, c'est quand même tricher aussi.
Mais vous l'avez lu, le bouquin d'Agassi?
Non, non, mais après, je sais
pas. Ah bah
tout.
Voilà, non, parce que ça m'énerve. C'est un bouquin formidable, mais qui se lit comme un roman. Et c'est les feuilles qui ont été sorties dans la presse à ce moment-là, c'est pas vrai. À aucun moment, alors je ne dis pas qu'il ne s'est pas chargé, ça on ne le saura jamais, mais ce n'est pas de ça dont il parle. Il parle plutôt d'un moment où il s'est drogué comme ferait quelqu'un qui se drogue. C'est un problème de junkie, on va dire. Pas de dopage, ce dont il parle.
Oui, enfin bon, drogué, dopage, c'est pareil.
Non, c'est pas pareil.
Ah non.
Bah si, c'est
non.
Pareil.
Mais
bah,
non.
Si.
Mais non, parce que regarde, alors, on va remuer des vieilles histoires. Non.
Quand
Richard Gasquet a son problème de cocaïne à Miami, non, c'était pas pour faire des meilleurs résultats sur le cours, c'était pour faire la bringue en boîte de nuit. Ça n'a rien à voir.
Les joueurs ou les, enfin je veux dire les coureurs cyclistes tout ça qui se chargent, ce sont des gens camés,
ils absorbent
une certaine dose, ils ont besoin de leur dose régulièrement après et ça va bien au-delà de
oui,
l'aspect sportif.
Mais dans ce cas-là,
non,
mais
c'est de savoir si tu commences. Quand Martina Hingis prend de la coke après Wimbledon, c'est pas pour gagner des matchs.
Mais ça va ensemble. Si tu fais pour l'aspect festif, c'est que sur le côté sportif, tu dois te charger. Attends.
Ah.
C'est que t'es pas forcément donc, très
clair. C'est
vous l'ancienne joueuse.
Non, mais ça c'est du, non mais le truc. Attends, je vais juste me prendre un peu de coke et tout. Attends, ça va, c'est que t'es dérangé dans ta tête. Et c'est que déjà, quand t'es sportif, tu sais très bien que t'as des contrôles réguliers et t'es complètement parano, même quand tu bois une bouteille d'eau. Donc, pour moi, il y a la...
Donc pour vous, c'est... Ah, y a... Oui, on ne peut pas se faire surprendre par ce genre de choses. Ouais, c'est ça que vous dites.
Ah, tu
quand
on
est sportif de niveau.
Ah, si tu fais attention, non.
D'accord.
Je crois
au
truc. Ma femme a pris des cachets, je me suis trompée... On a changé de place pendant la nuit, je me suis retrouvée.
Elle m'a embrassé.
J'ai vu son verre d'eau
ça
et tout.
Je me tourne vers Julien.
Non,
mais...
on était
parce que là, on est dans les joueurs.
J'espère qu'on va trouver un bon psy pour Justine Hénin qui va manifestement en a besoin. Parce que...
On s'en fout de Justine Hénin.
Ah non, mais qu'elle arrête de me pourrir l'espace.
C'est vrai.
Mais qu'elle arrête justement de nous pourrir l'espace.
Mais toi,
Justine Hénin,
en fait, sur elle, on en a un à
foutre. Ah non, moi, je trouve ça scandaleux.
Je rejoins Carole dans le sens où je suis assez inquiet pour la suite de la vie de Justine Hénin.
Qu'elle nous lâche.
Mais qu'est-ce que tu t'en fous?
J'aimerais pas qu'elle finisse mal, quoi.
Surtout qu'elle arrête, quoi. Qu'elle se taise et qu'elle.
Elle a une carrière, elle a un jeu pour moi excellent. exceptionnel. Ah bah oui, c'est le plus beau tennis qu'on ait.
J'aimerais qu'elle ait une seconde partie de vie quand même agréable.
Mais c'est pas gagné.
Tu vas pas me dire que sur le terrain elle est agréable, dans ses interviews elle est agréable.
C'est ça.
Mais moi je juge un joueur de tennis sur le tennis qu'il produit.
Humainement parlant, je pense que franchement il y a du boulot.
Bah voilà, donc
elle m'a fait rêver quand même au niveau tennistique.
Ah mais moi je me mets à la place des, enfin je sais pas qui, mais elle entend cet entretien, mais je lui fais manger la raquette.
Que moi, elle se marre, c'est une nana qui est sympa, qui
Kim, elle va aller gagner 3 autres grands chelems derrière. Et
ça étonne pas du tout.
Ouais. Puis Kim, elle s'en fout, elle va aller amener sa fille à l'école et tout. C'est ça. Elle a une vie, quoi.
Ah moi je trouve ça lamentable.
Parce que Justine n'a pas forcément juste.
Bah, c'est peut-être le problème, justement.
Ouais, mais bon, c'est, après c'est une, ouais, c'est, elle a tout donné dans ce sport et que derrière elle a rien, quoi.
C'est ça, terrible.
Non mais c'est ça.
C'était son truc, elle avec ça.
Ouais, non mais c'est ça.
Avec ça. Elle lui reste son académie.
Non, elle a même
arrêté. Ouais.
Et ça m'inquiète aussi.
Nadal en ouvre une.
Ah,
mais on n'avait pas plusieurs.
Ouais, d'accord, ouais.
Si, il y en avait plusieurs, on avait même en Chine. Tout
elle
ça.
Arrête
bah, elle en... Celle de Belgique, elle la met
celle
en vente
Belgique
en tout cas.
Celle de Belgique est fermée, ouais.
Donc ça, c'est pas bon sinon.
Nadal en ouvre une à Manacor.
J'ai très peur de comment on va la retrouver.
Il va y avoir une énorme structure à Manacor.
Et un musée d'ailleurs.
Et on va tous aller passer nos vacances là-bas.
Il faut au moins un musée pour mettre tous les trophées de Rafael.
C'est vrai, un musée.
Non, mais lui, il continue à essayer de s'investir en tout cas.
Ah oui, compare pas Rafa à l'autre, s'il te plaît.
À l'autre.
Par contre, moi, je voudrais rajouter un petit truc.
Pour finir.
Juste un peu sur les garçons. Il y a quelqu'un qui me fait plaisir parce qu'il revient tout doucement à son meilleur niveau, en espérant qu'il ne se reblesse pas, c'est Juan Martín del Potro. Et je pense que dans les semaines à venir, il peut faire mal.
Il joue cette semaine.
Il a
Delrich. À Memphis, il s'est un peu blessé à la cuisse. Donc,
faut voir. Après, vu qu'il a pas fait, voilà, il a pas fait de compétition.
Un peu comme Cilic, quand même, qui a fait finale à Marseille.
Oui, qui va mieux.
En revanche, on a perdu Ancic. Qui n'a
jamais
remis ni de sa mononucléose, ni de son dos.
Et ce garçon va devenir avocat, j'adore.
Ouais.
J'adore.
Il a 26 ans, il a trop mal au dos, il ne peut plus continuer.
C'était un joueur fantastique, hein, Marion.
C'était un beau joueur.
Moi, ça va être un grand avocat.
Oui.
Voilà. Non, c'est, je trouve que c'est très courageux, et puis ça montre qu'il est bien fait dans sa tête.
Et qu'il y a une deuxième vie après le tennis.
Rendez-vous jeudi prochain, brave Jean.
Oui, monsieur.
On sera à la veille de la Coupe Davis.
Logiquement, la semaine prochaine, nous aurons un invité spécial.
Ah, oh,
on vous laisse la surprise. On vous laisse la surprise.
Quelque chose.
Même heure, même endroit, jeudi prochain. Merci à tous d'avoir suivi Carrément Tennis.